Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau numéro d'Esprit Sport, une heure ensemble pour évidemment parler de sport. Il est fidèle au rendez-vous malgré un week-end mitigé des équipes qu'il suit. Bienvenue Corentin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir à tous.
Et en plus cette semaine il n'y a pas de décalage, magnifique.
Oui, il n'y a pas de décalage pour l'instant.
Pour l'instant, la semaine dernière pour vous l'émission s'était clôturée de manière inopinée.
C'est ça.
Les Bleus ont gagné et nous allons parler équidé. Un combo qui oblige Anne-Françoise Marie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Et bonjour Jonathan, c'est vrai que c'est mon domaine là.
Ah bah là on a tout.
Ah bah là il y a avec ça à faire.
Là on s'est dit si
c'est
elle
le jour
pas...
ou jamais.
C'est ça, si elle vient pas avec tout ça.
Alors, c'est vraiment qu'il pleut.
C'est vraiment qu'il neige même. Comment ça va?
Ça va très bien.
On va parler équidé avec vous. On va parler des épreuves de sport, des épreuves équestres au JO. Alors, dernière minute, voilà, on va trouver, expliquer ce format, les catégories, où ça a lieu et tout ça, pour être au point pour les épreuves qui vont commencer dans 165 jours, très précisément.
C'est très précis.
Oui, bah, y a un compte à rebours qui est diffusé sur le téléphone, attention, c'est précis. Il a participé à la préparation de cette émission et à la prochaine, c'est une nouvelle corde à l'arc d'Esprit Sport. Bienvenue Gabin.
Bonsoir Jonathan, bonsoir tout le monde.
Voilà, Gabin qui sera avec nous. Gabin qui nous vient de la Bastide Saint-Pierre dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, qui fait du tennis.
Oui.
On va essayer de trouver des gens pour parler tennis la semaine prochaine, Gabin. Ça sera la mission. Voilà. C'est votre défi, Gabin. On va évidemment retrouver les tops et les flops de l'équipe du jour. À suivre donc ce fameux entretien qui sera aussi une sorte de chronique que nous écouterons avec Anne-Françoise. Elle nous parlera donc des épreuves de sport équestre, le format, les catégories, le lieu, l'organisation. On verra même l'impact écologique. Tous ces sujets à retrouver dans le face-à-face. Une nouveauté depuis la dernière émission. Nous allons retrouver plusieurs notifications sur l'actualité et on fera une revue de ces notifications ensemble juste avant notre débat. Avec cette victoire au bout du suspense face à l'Écosse, la machine bleue est-elle relancée? On essaiera de donner des arguments pour voir si oui ou non elle est relancée. Mais tout de suite, nous retrouvons le Flash en région.
L'Infosport avec Corinne Saint-Félix.
En Ligue 1, Toulouse n'a pas brillé face à Nantes.
La rencontre a tourné court hier. Le match était important pour les deux formations qui jouent leur survie dans l'élite à chaque match. Un affrontement que Toulouse a perdu 1-2 contre une équipe de Nantes qui n'avait pas fait de résultat en Ligue 1 depuis 2 mois. Douche froide pour le TFC qui pensait avoir fait le plus dur en battant Reims la semaine dernière. Côté arbitrage, l'officiel de la rencontre, Gaël Angoula, a remplacé Stéphanie Frappard juste avant le coup d'envoi. Cette dernière est au centre d'une polémique suite à une décision en faveur des Canaries lors du dernier match. Prochain match pour le TFC, le rendez-vous, il est européen. Ce sera contre le Benfica le jeudi 15 février à 21h à Lisbonne.
Le Stade toulousain confirme son statut de meilleur centre de formation de rugby français.
La Ligue nationale de rugby a dévoilé début février son classement annuel des meilleurs centres de formation des clubs du top 14 et de Pro D2 pour la saison 2022-2023. Pour la troisième année consécutive, le Stade toulousain s'illustre en prenant la première place, confirmant sa position de référence dans le développement des jeunes talent. Le club souligne en toute modestie qu'il est le seul à avoir réalisé la performance d'être sacré champion de France de top 14 et premier centre de formation en 2018, 2019, 2020, 2021 et désormais 2022, 2023. Le classement qui évalue l'efficacité sportive et scolaire sur les 3 dernières années place l'Union Bordeaux-Bègles à la 2e position suivie du Lyon Olympique Universitaire à la 3e place.
Handball Toulouse accroché par Limoges.
Ce dimanche après-midi, le Phoenix Toulouse Handball a concédé le match nul sur son parquet contre Limoges, 29-29. Les Toulousains ont compté jusqu'à 6 buts de retard en seconde période, mais ont réussi à s'arracher pour revenir à hauteur des Limougeaux en fin de match. Avec ce match nul, Toulouse manque l'occasion de recoller sur Montpellier, 3e, et reste en 4e position de Star League avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour.
Le tennisman Maxence Brovillé, licencié au Stade Toulousain, suspendu 7 ans.
Il a été exclu pour avoir truqué des matchs entre 2017 et 2018. Il est aussi condamné à verser 5 000 $ pour ne pas avoir coopéré durant l'enquête. Le joueur a d'abord nié toutes les accusations liées au trucage de match. Maxence Brovillé, âgé de 25 ans, a été au mieux 708e mondial dans sa carrière. Le licencié du club toulousain était provisoirement suspendu depuis juin 2023. Il l'est désormais jusqu'en juin 2030. 2 joueurs français sont aussi suspendus à vie pour 7 et 8 accusations de matchs truqués.
Et les 2350 meilleurs tireurs de France visent le titre au championnat de France à Tarbes.
À 6 mois des JO, Tarbes accueille les championnats de France de tir sportif. Jusqu'à samedi, la Fédération française de tir et la cible Tarbes-Pyrénées se sont associés pour organiser le championnat de France 10-18 mètres 2024. Cette compétition constitue chaque année le plus grand rendez-vous national consacré au tir sportif. Cet événement permettra à tous de découvrir plusieurs disciplines, arbalète, carabine, cible mobile, pistolet, paratir. Plusieurs pointures de la discipline seront présentes, à commencer par les médaillés olympiques ou paralympiques Cédric Fèvre-Chevalier, Céline Gauberville et Alexis Reynaud, mais aussi les champions du monde Tanguy de la Forest et Pierre-Guillaume Sage.
Et tout de suite, première séquence de cette émission, les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et on va plutôt commencer, tenez, par le petit nouveau qui arrive, Gabin. On vous écoute pour votre première sélection de top et de flop.
Bah alors moi, pour commencer, en top, j'ai mis Hugo Humbert, parce que seul Français du week-end qui s'impose dans un tournoi de tennis à l'Open de Provence, qui lors de sa demi-finale gagne contre le tenant du titre Hubert Hurkacz, qui est actuellement 8e mondial, et qui, grâce à sa victoire en finale contre Dimitrov, 13e à l'ATP, Hugo monte dans le top 20 du tennis.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour le tennis français qui n'est pas forcément au top du top, comme on pourrait dire.
Ouais. Oui.
Et votre flop ?
Et en flop, moi j'ai mis Angers. Mais, lors du match de Ligue 2, pour la place de leader, Angers a affronté Auxerre, qui est le co-leader du championnat. Angers qui pourtant, en supériorité numérique durant 55 minutes, a perdu ce match. Les causes de ce mauvais résultat est que Angers perd sa place de leader de Ligue 2.
Et Angers qui... Est-ce que Angers va remonter ? Ça, c'est la grande question.
Ouais, mais je pense.
Ils ont l'effectif pour. Est-ce que... Bon, après, ils vont risquer de faire l'ascenseur, mais peut-être qu'on reverra Angers en Ligue 1 avant Saint-Etienne et Bordeaux, ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Gabin, Corentin.
Eh bien, écoutez, Jonathan, puisque Coralie n'est pas là, je vais mettre en avant les sports d'hiver, histoire de prendre un petit peu le relais. Et on va parler du biathlon avec les mondiaux qui se jouent en ce moment à Nové Mesto, en République tchèque. Et on va parler surtout des Françaises qui ont réussi un superbe quadruplé sur l'épreuve du sprint avec 4 participantes aux 4 premières places. Julia Simon s'impose devant Justine Brézaboucher, deuxième, et la troisième sera Lou Jean Monod. Sophie Chauveau, elle, termine quatrième. Julia Simon, elle est inarrêtable avec déjà 3 médailles d'or au compteur en relais mixte, sprint et poursuite. Elle ne pourrait ne pas s'arrêter là puisqu'elle pourrait faire un quadruplé historique. C'est tout le mal qu'on lui souhaite pour ses championnats de biathlon. Et pour le flop, du coup, je vais vous parler du Phoenix Toulouse Handball qui trébuche à domicile. Un match presque au sommet hier avec le Phoenix 4e qui recevait Limoges 5e au Palais des Sports dans son antre. Et c'était donc dans le cadre de la journée de championnat de Star League. Les Toulousains ont été dominés toute la rencontre, mais ils ont quand même su revenir à la dernière minute en remontant 4 buts sans en encaisser. Et c'était les 4 dernières minutes du match. Donc les Toulousains ont quand même été solides sur les derniers instants, score final 29 partout, donc c'est pas grave, mais c'est quand même dommage car les Toulousains avaient une bonne occasion pour revenir à hauteur de Montpellier, qui est 3e au championnat, et peut-être essayer de sécuriser cette 4e place qui leur permettrait de jouer la Ligue des Champions l'an prochain.
Eh bien, on va suivre cette épopée, évidemment, dans cette émission. Anne-Françoise, merci Corentin pour cette sélection. Anne-Françoise, est-ce qu'on va peut-être parler rugby avec vous ?
Oui, alors.
Ah, avec le micro, c'est mieux quand même.
Avec le micro, c'est mieux. oui, moi, comme flop, je vais mettre la prestation de l'équipe de France contre l'Écosse. Ça tombe bien parce qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, je pense qu'il va falloir bien décorréler le résultat et bien préciser que, quand même, on doit gagner quand même quand on a un sport d'équipe. Non, mais là, c'est plutôt sur la manière, en fait, que je vais mettre un petit flop au 15 de France. Parce que bon, ça a été à peu près unanime. On s'est quand même fait suer pendant tout le match. Voilà. Alors on sait que les conditions n'étaient pas faciles, etc. On en reparlera tout à l'heure pendant le débat. Mais je mets quand même mon flop là-dessus.
Et votre top ?
Attendez, je l'ai perdu.
Ah, vous l'avez perdu.
Ah oui.
Ah bah dites donc.
Eh oui, j'avais trouvé un truc malin.
C'est cocasse.
Ah oui, non mais autrement je vais mettre le FC Nantes, tiens.
Oui.
Qui se relance.
C'est vrai qu'on en a parlé juste avant l'émission, vous en tant que bretonne.
C'est un petit peu mon club de cœur quoi, donc
dans top et flop, vous placez le Toulouse Nantes dans et
ouais, c'est
en
ça.
Fait, il y a pas de
Non mais je vais pas mettre un je laisse le flop du TFC.
C'est bon. Moi, quelques mentions honorables. En top, on aurait pu penser à l'enfant qui chante l'hymne irlandais. C'était un vrai moment d'émotion, autant pour les joueurs que pour ceux qui étaient devant la télé. Quelque chose qu'on a eu du mal à faire pendant
la Coupe du Monde.
Pendant cette Coupe du Monde, oui, effectivement. Comme quoi,
les enfants peuvent bien chanter en fait.
Oui, bah, les Irlandais y arrivent mieux que nous en tout cas. Et en flop, évidemment, le TFC qui n'a pas gagné à domicile en Ligue 1 depuis. Est-ce que quelqu'un la date?
Alors là, c'est pas moi qu'il faut demander.
On a deux qui sont partis à la buvette.
J'ai pas non plus. Non, j'attendais justement.
Depuis
je pensais que vous faisiez le DVD pour le
1er octobre 2023.
Ah oui.
Ça fait plus d'un
ça
an.
Date.
Voilà, c'était face à Metz. Les prochains matchs du TFC à la maison, Lille, Nice, Lyon, Strasbourg, Marseille, Montpellier, Brest. Allez, on n'est pas prêt d'en revoir une victoire à domicile. En tout cas, on quand même croise les doigts pour les violets. Ils sont très forts. Comme l'a dit Erwan la semaine dernière, on vous invite à aller écouter l'émission en podcast. On a vu un Toulouse gagner contre Liverpool, gagner contre Brest, mais chuter contre Nantes ou contre d'autres équipes. Donc à voir s'ils vont arriver à se sublimer face à des équipes bien meilleures que ces violets qui pour l'instant peinent un petit peu. Attention à la relégation en fin d'année. Tout de suite, on retrouve un face-à-face un peu particulier.
Esprit Sport, le face-à-face.
Gabin Corentin, vous pouvez évidemment poser des questions si toutefois vous en avez, puisqu'on va parler avec notre invitée du soir, Anne-Françoise.
Oh, voilà. Bonjour.
Alors pourquoi vous êtes venu nous parler cheval? Alors tout d'abord parce qu'on a eu un petit désistement de dernière minute. Bon, ça c'est pas grave, ça arrive. Les sports équestres, petit point historique, remontent à l'Antiquité.
Voilà. Tout à fait.
Donc on fait du sport avec des chevaux depuis l'Antiquité et le sport équestre est présent au JO depuis 1900.
Ouais,
voilà, c'est
un
chiffre rond.
Le début des jeux modernes.
C'est pas compliqué à retenir, 1900.
Dans l'Antiquité, les sports équestres, c'était surtout des courses de chars. C'était des courses de chars qui étaient un des clous du spectacle des JO. Et en 1900, du coup, ils ont ajouté, quand ils ont refait les Jeux Olympiques modernes, il y a eu du coup du saut d'obstacle, soit en hauteur, soit en longueur, et aussi des concours de modèles et allures où on jugeait la conformation des chevaux, leur beauté, etc.
Ce qu'on peut appeler le dressage maintenant.
Il n'y avait pas de cavalier, on jugeait vraiment le cheval sur la façon dont il était fait.
C'est un peu comme le salon de l'agriculture.
C'est exactement le salon de l'agriculture en fait. Oui,
très bien. Et du coup, les épreuves d'équitation auront lieu pour ces JO du 27 juillet au 6 août. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Quelle catégorie? Comment ça se passe?
Alors, il y a plein de disciplines dans le monde équestre, mais aux Jeux Olympiques, on n'en a que trois. Donc, il y a le saut d'obstacle, qui consiste à... sauter par-dessus des obstacles mobiles, donc c'est-à-dire c'est des barres qui peuvent tomber éventuellement si on tape dedans, et donc il ne faut pas taper dedans, parce que si ça tombe, ça fait des points de pénalité. Et il faut faire le parcours le plus vite possible, puisque du coup on a des points de pénalité, soit quand on fait tomber des barres, soit quand on arrive tard. Donc ça c'est la première épreuve, ça s'appelle donc le saut d'obstacle, ou CSO.
On juge l'agilité...
Alors là,
on va juger
la technique des chevaux, leur explosivité, leur réactivité aussi et la conduite du cavalier.
Oui, voilà. cette relation couple cheval-cavalier.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est des obstacles qui font 1m60 quand même.
Oui, quand même.
Ah oui, et qui peuvent être très très larges. C'est-à-dire qu'un obstacle peut faire 2m80 de largeur. Il y a une rivière qui est un peu un héritier du saut en longueur qu'on avait sur les premiers JO, qui fait 5m de long. Donc là, le cheval, du coup, il ne doit pas sauter en hauteur, il doit sauter plus à plat pour aller plus loin. Donc en fait, le cheval doit être très réactif.
Il doit être, pas polyvalent, mais il doit savoir sauter aussi haut que loin.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc en fait, il doit être très à l'écoute de son cavalier. Parce que même s'il voit un peu, enfin, il voit les obstacles, c'est quand même des chevaux qui sont très, très expérimentés. C'est le cavalier qui va lui indiquer s'il doit sauter plutôt très haut et court ou plutôt long, etc. Donc en fait, on juge ces couples chevaux-cavaliers qui sont formés pour plusieurs années. Donc les chevaux là, qu'on va voir concourir, ils ont au minimum 9 ans. Donc ça, je crois que c'est dans... Alors je ne sais pas si c'est les sélections que de l'équipe de France ou si c'est
Donc ils ont possiblement déjà fait une Olympiade.
Non.
Pour certains.
Oui, possiblement, oui. Alors,
c'est possible,
l'apogée
mais
d'un
bon.
Cheval, c'est entre d'un cheval de haut niveau comme ça, c'est entre 9 ans et 12 ans. Il y en a certains qui vont jusqu'à 15-16. En saut d'obstacle, un peu moins, parce qu'en fait, il y a quand même besoin de beaucoup d'explosivité. Mais du coup, c'est des chevaux qui sont travaillés depuis qu'ils ont 4 ans, quoi. Donc, c'est un long investissement pour monter un cheval au haut niveau.
Donc, le saut d'obstacle, c'est mixte, du coup. Il n'y a pas besoin d'hommes ou de femmes dans des catégories particulières.
Les hommes et les femmes concourent dans la même catégorie. Et du coup, chez les chevaux, c'est pareil. Les mâles et les femelles d'accord. concourent aussi dans les mêmes catégories.
Donc en fait, on peut avoir des couples mixtes, pas
filles,
mixtes, mais
garçons,
qui...
Filles, garçons, ouais, peu voilà. importe.
Ouais. Ça n'importe pas du tout sur soit le poids du cavalier.
Non,
tout
parce
ça
que,
est assez
alors,
bien réparti.
Alors y a, évidemment, c'est pas tout à fait comme en course de vitesse, par exemple les courses de galop, où là on va essayer d'avoir les jockeys les plus légers possibles, parce que chaque gramme est hyper importante.
Là, c'est vraiment l'aspect, la grâce, l'agilité.
Bah là en fait, il faut une maîtrise oui. de la part du cavalier, et en fait, peu importe sa taille, il y a des gens qui sont très grands, très massifs. Kevin Stott, par exemple, qui est un bon cavalier de saut d'obstacle français, il est très grand, mais il est très fin, mais il est très grand. Il y en a qui sont franchement costauds, quoi. Après, le cheval, il est tout à fait capable de sauter. Avec son cavalier voilà. Après les chevaux en eux-mêmes ben il y a des plus petits et des plus grands, mais enfin ils sont à peu près tous dans les mêmes gabarits. Pour sauter 1m60, évidemment on ne peut pas prendre des poneys, quoi.
Non, c'est sûr, voilà. C'est plus pratique. Et donc ça va être jugé en parcours individuel et en équipe.
Ouais, voilà, en fait il y a deux tours préliminaires, un tour préliminaire en équipe, un tour préliminaire en individuel, et après il y a les finales qui vont sélectionner les meilleurs de chaque compétition pour faire la finale. Les tours changent à chaque fois, donc c'est-à-dire que le tracé change.
D'accord.
Les obstacles, le profil des obstacles change aussi. C'est le chef de piste qui va décider de ça. Il y a à peu près c'est entre 600 et 700 mètres de longueur, et donc ils doivent franchir une quinzaine d'obstacles. Donc il y en a certains qui sont en série, on appelle ça des doubles ou des triples, donc ça veut dire qu'ils sont assez rapprochés, donc il faut que le cheval enchaîne. Il n'a pas le temps de se reposer, de réfléchir, il faut vraiment que ça saute.
Ça saute rapidement.
C'est ouais,
bien, il va y avoir
réactif,
une
ouais.
vraie, quelque chose de très beau, de très, pas artistique, mais de très représentatif de ce que peut faire le cheval avec son cavalier sur certaines
ouais,
sauts.
Alors, sur le CSO, on est plutôt dans l'efficacité, hein, on est
d'accord.
plutôt dans la puissance.
Efficace et rapide.
Efficace, rapide, agile. Alors par contre, il y a des épreuves. En fait, s'il y a des égalités à la fin de la finale, il peut y avoir ce qu'on appelle un barrage. Donc à ce moment-là, tous les ex-échos, donc ça c'est si le temps n'est pas pris en compte, en général, on compte que le nombre de barres. Donc ceux qui... font pas tomber de barre, s'ils sont plusieurs, il faut bien les départager. Et donc, il y a un barrage. Et là, c'est le temps qui compte. Donc là, c'est la course à la montre. Et là...
Après, c'est jugé au temps.
C'est jugé complètement au temps.
D'accord.
Et donc, on va avoir un parcours un peu plus petit, souvent 6-8 obstacles. Et là, tout est possible. Donc ça veut dire que... On va inciter les cavaliers en fait à prendre ce qu'on appelle des options, donc c'est-à-dire des raccourcis. Donc ils vont tourner très très court entre les obstacles. Donc leur cheval, il va faire preuve d'une très grande agilité, un petit peu comme un chat qui va tourner, sauter, se monter, etc. Et c'est très très impressionnant. Il y a le cavalier Julien Epaillard qui a fait il y a pas longtemps un barrage complètement fou il y a 2 ou 3 semaines. Et son cheval, on dirait une panthère qui saute.
Ouais,
c'est incroyable.
C'est assez impressionnant. Corentin, qui a une question.
Oui, c'était pour savoir comment se passait aussi le système de qualification finalement pour accéder au JO. Est-ce qu'on se retrouve sur un système qui ressemble à l'athlétisme où finalement il faut rentrer des scores ou un minima sur des compétitions qui sont choisies? Ou est-ce que c'est le palmarès des chevaux qui fait qu'on les sélectionne?
Alors je vais faire une réponse de Normande, c'est un peu les deux en fait. Donc il y a une quinzaine de couples qui a été sélectionnés par discipline, et donc ils sont sélectionnés sur leurs résultats de l'année 2023 et jusqu'au 25 juin 2024. Donc ça va être en saut d'obstacle par exemple, ça va être sur les Coupes des Nations, les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, sur le complet ça va être les compétitions internationales, etc. Et après la sélection est proposée par la directrice technique nationale qui s'appelle Sophie Dubourg, et donc c'est au final le président de la FFE qui sélectionne donc d'abord les présélectionnés, donc là eux ils le savent déjà, et un mois avant les JO, on va sélectionner les 3 cavaliers plus un remplaçant, enfin les 3 couples plus un remplaçant qui vont pouvoir aller aux JO. On le sélectionne très tard parce qu'en fait ça dépend vraiment de l'état de forme des chevaux. Et en fait, voilà, s'il y en a un qui se blesse.
Il y a une liste bis pour prévoir des remplaçants ou pas du tout?
Il y a un remplaçant possible.
Un seul?
Ouais.
Par épreuve ou par.
Par discipline.
Par discipline.
Donc par discipline, il y aura 3 coupes titulaires et un remplaçant.
Parce que du coup, par discipline, on a abordé d'abord
Donc là, on a parlé saut d'obstacle.
Le saut d'obstacle. Il y a aussi.
Le dressage.
On en a parlé rapidement, ouais.
Voilà, donc le dressage, pour le coup, là, on est plutôt sur une discipline artistique qui va être jugée par des juges. Hein, c'est un petit peu comme du patinage artistique, en fait. Donc là, on va avoir une série de figures qui vont être demandées. On va demander au cavalier de faire exécuter, que son cheval exécute telle ou telle figure. Et puis là, on va juger les allures du cheval, son calme, sa rectitude, donc le fait qu'il soit bien droit, la précision, évidemment, et puis la discrétion du cavalier. Le dressage, il faut que ça ait l'air hyper facile, alors qu'en fait c'est très dur. Il faut que le cavalier n'ait pas l'air de beaucoup intervenir sur son cheval. Donc en fait, on va juger un peu l'harmonie entre les deux. Donc le dressage, l'idée, c'est de magnifier les allures naturelles du cheval. Et donc de montrer en fait un petit peu comme ce qu'on peut imaginer qu'un cheval ferait dans un pré quand il est très très content, par exemple. Et ben voilà, on va essayer d'avoir ça, mais sur le carré de dressage.
C'est très bien, un cheval qui est très très content dans un pré.
Voilà.
Il secoue la tête. Et
il
puis,
secoue la tête, il galope, il monte un petit
peu.
Et
tout ça, il faut que ça soit fait de façon très naturelle. Ouais. C'est une danse, en fait, entre le cavalier et son cheval, peut-être.
Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'en fait, il y a plusieurs épreuves en dressage. Donc, il y a ce qu'on appelle les Grands Prix. Donc, les Grands Prix, c'est une reprise imposée. Donc, c'est une suite de figures que les cavaliers doivent mémoriser, qui travaillent évidemment énormément avec leurs chevaux et qui doivent dérouler. On dit dérouler une reprise. Et puis, il y a la finale. Donc c'est un peu comme le CSO, c'est-à-dire qu'il y a une première épreuve qualificative puis une épreuve de finale, et l'épreuve finale individuelle, en fait, c'est une reprise libre. Donc ça veut dire qu'ils choisissent eux-mêmes les figures qu'ils vont mettre, leur enchaînement, etc. Et que ce soit en équipe ou en individuel, c'est en musique.
Ah, d'accord.
Donc en fait, il y a la musique qui est adaptée aux figures que le cheval va faire. Alors soit on prend une musique qui existe déjà puis on adapte les figures, soit maintenant les grands cavaliers souvent ils font composer en fait des musiques qui vont avec leur reprise.
C'est assez,
et là c'est artistique, ouais. Alors après c'est artistique, ça dépend un petit peu du goût de chacun. Moi par exemple, ce qu'on voit en dressage moderne,
ça... Oui, je vous vois bien après c'est du Julien Clerc et un cheval qui je sais pas, sur Cœur de Rocker peut-être, je sais pas,
sur La Cavalerie par exemple de Julien Clerc.
Vous avez vu, donc là c'est vraiment l'épreuve qui juge la beauté du couple cheval cavalier.
Voilà, alors le dressage moderne s'intéresse principalement à des chevaux puissants, très mécanisés. Donc on ne va pas avoir cette espèce de légèreté qu'on peut retrouver dans des races ibériques, par exemple, qu'on peut voir en spectacle. Moi, j'avoue, ce n'est pas ma tasse de thé, ces modes de chevaux-là. C'est des chevaux très denses, très puissants, très physiques, qui vont être du coup... c'est des races en fait qui sont souvent allemandes ou suédoises, et on va avoir des choses très mécanisées, rien à voir avec des chevaux beaucoup plus légers qu'on peut avoir par exemple dans les races ibériques, qui vont être là beaucoup plus ramassées, beaucoup plus relevées, beaucoup plus légères. C'est pas la mode en ce moment, les juges juste comme ça, on fait avec en fait. Mais l'idée c'est quand même d'avoir une harmonie entre le cheval et le cavalier, et d'avoir un cheval pour qui on a l'impression que c'est facile. Voilà, c'est l'idée, c'est le cavalier va aider à redonner en fait au cheval toute la beauté qu'il a quand il n'a pas le cavalier sur le dos.
Donc là aussi, ça se passe en individuel, en équipe,
oui.
Et mixte, il n'y a pas de... Voilà.
Ah bah oui, tout... Alors tout le dressage, c'est une discipline où il y a plus de femmes. Contrairement aux...
Plus patientes, peut-être.
Ouais, peut-être. Le CSO, c'est à peu près 50-50. Et donc, ça se déroule comme le CSO sur une carrière en sable. Voilà. On ne fait pas galoper les chevaux sur le béton.
Ni sur des cailloux,
non. Chose alors, on peut des fois voir sur de l'herbe.
Mais ça colle aux pattes.
Ça glisse.
Ça glisse. Ouais. Ah oui, chevaux tombés, même avec le cavalier ou sans cavalier, on n'aimerait pas trop voir ça parce que c'est quand même assez
impressionnant. C'est ça. En
général, impressionnant,
quand on est sur l'herbe, on met des crampons sur les fers des chevaux.
Et on en parlera du lieu où ils vont faire toutes ces épreuves après, puisque vous allez voir ces petites particularités. Troisième épreuve, concours complet.
C'est l'épreuve où on met des crampons en général, donc c'est le concours complet. Donc le concours complet, c'est la troisième grande discipline. En fait, ça rassemble un petit peu les deux précédentes, puisque dans le concours complet, on a trois épreuves différentes. On a d'abord du dressage. Donc on va demander, basiquement à peu près les mêmes choses que ce qu'on demande en dressage, mais un petit peu plus simple. C'est-à-dire qu'on va avoir des airs un peu moins relevés. On veut juste voir qu'on a un cheval calme, énergique, logique, droit, qui écoute bien son cavalier, etc. Donc ça, c'est la première épreuve. C'est celle qui se déroule en premier, d'ailleurs. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le cross-country. Donc en fait, là, c'est une grande balade.
Faites-nous rêver. Là, je veux sentir des États-Unis. Là, je veux sentir du lasso et des chapeaux
de cow-boy. Moi, personnellement, je visualisais plutôt l'Angleterre.
C'est vrai.
Les grands prés, les sous-bois, etc. Vous galopez à fond et de temps en temps, il y a un tronc et vous le sautez.
D'accord.
Voilà, en fait, le cross-country, c'est plutôt ça. C'est plutôt... donc là, c'est des grandes galopades. C'est des parcours qui font plusieurs kilomètres. Et donc, l'obstacle...
Kilomètres, quand même.
Ah oui.
Ah oui.
Donc ah bah, ça dure... Oui, un tour de cross, ça peut durer jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure. C'est... Donc en fait, il faut gérer aussi l'endurance de son cheval sur tout le... On ne peut pas le cramer dès le début, parce que sinon, on ne va pas au bout. Et puis, disséminé sur le parcours, on va rencontrer des obstacles. Alors cette fois-ci, les obstacles sont fixes. Donc ça veut dire qu'ils ne tomberont pas si le cheval les touche. Donc si le cheval les touche, c'est pas très grave. Mais s'il les touche un peu de trop près, ça peut être très grave parce que le cheval peut tomber.
Mais c'est ça qui est assez particulier. Donc là, c'est plutôt les couples qui vont être les plus polyvalents au final.
Exactement. L'idée du complet, c'est d'avoir des chevaux polyvalents. Donc ça veut dire que sur le dressage, on va vouloir des chevaux souples, calmes, sérieux. En gros. Sur le cross, là, on va vouloir des chevaux qui ont de l'endurance, qui ont du courage, parce qu'en fait, ils vont devoir sauter des troncs, ils vont devoir sauter des haies. Des fois, ils passent à l'intérieur d'obstacles qui sont fermés au-dessus d'eux, donc ça, ça fait très peur à un cheval. Ils vont devoir rentrer dans le haut, ils vont devoir aussi être très à l'écoute de leur cavalier parce qu'ils vont arriver à un rythme très soutenu. On va beaucoup plus vite qu'en CSO, par exemple. Et des fois, on va avoir des obstacles pas très larges qui font un mètre et le cheval, il faut qu'il passe entre les deux poteaux d'un mètre, quoi. S'il passe à côté, c'est perdu, c'est refus. Donc,
c'est là où il y a l'aspect dressage, l'aspect entente entre les deux, ouais, qui va faire en sorte que ça passe ou ça casse. Enfin, j'espère pas que ça casse d'ailleurs.
Et donc, après cette épreuve de cross-country, on va avoir des chevaux du coup qui ont beaucoup galopé. Et le lendemain, ils vont faire une épreuve de saut d'obstacle, donc du jumping, où là, on va retrouver les mêmes qualités qu'un cheval de saut, c'est-à-dire de l'explosivité, de l'agilité. Voilà. Donc évidemment, c'est des obstacles qui sont un peu plus bas. C'est pas 1m60, on est plutôt sur les épreuves internationales, je crois que c'est 1m40. Mais c'est quand même, des trucs très solides. Ouais, tout à fait.
Quarantaine.
Est-ce qu'on a des chevaux qu'on voit sur plusieurs catégories,
non,
et ou même sur, par exemple, là, un cheval qui va être bon sur du cross-country, est-ce qu'on peut le voir aussi sur des courses hippiques beaucoup plus classiques où ça va quand même demander là aussi puissance, endurance, etc.
Alors, on va avoir des races qui vont pouvoir se recouper. Bah, par exemple, en complet, on peut voir des races qui peuvent être assez proches des races de course. Cependant, en fait, c'est un apprentissage tellement précis qu'on n'a pas, en tout cas à très haut niveau, on n'a pas un cheval de dressage qui va faire en même temps du cross.
Enfin, c'est un peu comme les complet. Voitures. On voit, mais pas des voitures de rallye sur de la glace.
Alors, à petit niveau, c'est pas du tout impossible. En général, les chevaux de complet, ils font des concours complets, mais comme il y en a un petit peu moins que le reste, ils vont aussi faire des concours de dressage et aussi faire des concours de jumping. Mais par contre, à haut niveau, en fait, l'exigence est telle que c'est pas vraiment possible. C'est-à-dire
ça
que
trop,
c'est un petit peu comme si vous demandiez à quelqu'un qui fait de la natation synchronisée de faire aussi du plongeon et aussi de la vitesse.
C'est très bien résumé, parce qu'il y aura aussi du plongeon dans ces Jeux Olympiques.
Voilà.
Et aussi, on en parlera. Question qui tue, concours complet, individuel, mixte et par équipe aussi.
C'est ça. Le complet, il y a un peu moins de filles.
Toutes les épreuves, donc
toutes
le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet, c'est individuel et équipe et c'est mixte.
C'est ça.
Voilà,
alors quand on parle d'équipe, c'est pas des chevaux qui jouent ensemble au ballon, hein, qu'on soit d'accord. C'est juste qu'on va cumuler en fait les scores des trois membres de l'équipe. Donc en fait, ils forment une équipe parce que ils vont vivre ensemble pendant la période des jeux, etc. Mais ils n'ont pas d'interaction vraiment, en fait. Ils partent les uns après les autres. Enfin, ils sont. Voilà.
Est-ce que l'esthétique du cheval au moment T va compter, par exemple, pour l'épreuve de dressage?
Alors, en dressage, oui. L'esthétique du cheval, la façon dont il a été préparé, ça va compter dans les autres disciplines, pas du tout. Donc, en fait, en dressage, on voit souvent.
L'esthétique compte quand même, quoi.
Ouais, alors, sa conformation.
Ça compte un peu.
Oui, ça compte un peu parce qu'en fait, il y a une note générale sur l'aspect du cheval. On va avoir des chevaux, par exemple, qui vont être nattés avec des pions. Donc, il y a autour du cavalier, il y a toute une équipe qui s'affaire. Donc, il y a les grooms qui vont préparer les chevaux, qui vont s'occuper de vérifier qu'ils ont bien marché, qu'ils ont bien mangé, qu'ils ont bien dormi, etc. Ils sont vraiment chouchoutés, ces chevaux-là.
Et donc, il y a les chevaux et les cavaliers. Il y a tout ce staff derrière qui prépare les chevaux. Il y a, on présume et on espère, des vétérinaires sur place.
Ouais.
Et tout ça, tout ce beau petit monde va se retrouver du côté du château de Versailles.
Ouais, le château de Versailles, c'est complètement incroyable.
Ça va être magnifique, ça on n'en doute pas. On imagine déjà les chevaux cavaler dans les jardins du château. Mais pourquoi ne pas avoir fait ça peut-être sur l'hippodrome de Longchamp, peut-être sur, je sais pas, sur autre chose qu'au château de Versailles. Parce qu'on rappelle que le château de Versailles s'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1979. Et donc, pourquoi avoir choisi Versailles ? Autre que par sa beauté, on a envie de dire oui, c'est normal pour la beauté, mais est-ce que ça n'impacte pas
Ah bah clairement, je pense que le château de Versailles, c'est une image de la France. Ça a une aura internationale qui est complètement incroyable. Donc, du coup, cette renommée, elle avait évidemment pesé dans le choix du lieu. Faut savoir quand même que les épreuves n'auront pas lieu devant le château.
Devant le château, non, ce sera dans les jardins.
Si vous avez déjà été à Versailles, vous vous mettez sur les terrasses du château, vous regardez le Grand Canal. Donc ça veut dire le très grand canal qui fait plus, je sais pas combien il fait de long, mais au moins plusieurs kilomètres. Et en fait, c'est de l'autre côté. Donc oui, c'est plutôt du côté de Saint-Cyr que du côté de Versailles.
Bah, sur le site des JO, château de Versailles.
Oui, parce que ça fait partie du parc, en fait. Et donc, y aura une carrière qui va être installée, donc en sable, et des tribunes qui seront temporaires, qui vont être démontées à la fin.
On attend entre 15 000 et 40 000 spectateurs.
Ouais. Voilà. Pour les finales de CSO, à mon avis, ouais.
Structure, montable, démontable, plus entre 15 000 et 40 000 spectateurs, avec tout ce que ça va engendrer, voilà. Est-ce que ça va pas impacter l'état de ce joyau français, on va dire ?
Ah oui, alors.
Parce que la question se pose aussi de.
Ouais, de la restauration. Voilà. En fait, l'endroit, c'est vraiment une prairie qui est après le canal. Donc, je pense qu'il est assez peu visible, finalement.
Donc, on peut se permettre. À mon avis,
les jardiniers du château de Versailles, ils sont tellement forts qu'ils vont être capables de remettre les choses en état.
Donc, il y a vraiment.
Sans souci, ouais. Il n'y a rien qui va rester après, clairement.
Il me tarde les photos avant, après.
Ouais, c'est ça.
Peut-être, on verra.
Moi, il me tarde de voir le tracé du cross, parce qu'en fait, ça va passer donc, dans les bois de Versailles. Ça va traverser plusieurs fois, parce que ça fait plusieurs kilomètres. Donc, en fait, on fait des détours, on revient, etc. Et je pense que les images vont être incroyables.
Allez, on va se mouiller. Les chances de médaille pour la France. Est-ce qu'on a des chances de médaille ?
Alors, oui. Clairement, on a des chances de médailles. Je vais commencer par le dressage parce que c'est une discipline où on est un peu moins fort. On a un peu moins la culture du dressage en fait en France. Cependant, on a quand même Morgane Barbançon-Mestre qui a déjà participé aux JO de Tokyo, mais pour l'Espagne, parce qu'en fait sa mère est espagnole. Et là, elle va mener l'équipe pour la France cette fois-ci. Elle a eu des bons classements là, en 2023, donc moi, à mon avis, elle a moyen de faire quelque chose. Et puis on a Charlotte Dujardin qui revient, donc qui a fait des bons résultats aux JO de Londres, qui revient après une grossesse et qui a fait des très bons résultats avec son cheval qui s'appelle Imhotep en fin d'année 2023. Là, elle a fini deuxième mondiale en fait, quand même.
Ah oui, d'accord. Donc
et elle a gagné la reprise libre d'une étape de la Coupe des Nations. À Londres, la Coupe du Monde, pardon.
C'est assez bon signe du coup pour ces chances de médailles. Donc,
on a deux cavalières. On a deux cavalières, c'est pas non. Voilà.
Donc, deux chances potentielles de médailles.
Oui.
On voit le verre presque plein.
Voilà, en individuel, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des gens très très forts en face, très très installés. Mais bon, rien n'est impossible. On peut toujours. Après, c'est à la maison, donc on disait
oui,
aussi pour le rugby, hein. Mais bon. Voilà.
Tout ce qui est, on sait que juste après les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques. Comment ça va se passer pour ces Jeux Paralympiques du coup ?
Alors les Jeux Paralympiques, du coup la para-équitation, il y a une seule discipline, c'est le dressage. Enfin, une seule discipline olympique, parce qu'en fait, il y a du para saut d'obstacles qui se fait. Et en gros, donc en dressage, en fait, on va aller juger exactement la même chose que chez les valides, sauf qu'en fait, les cavaliers sont répartis en 4 grades de handicap, un petit peu comme dans toutes les compétitions.
Oui, c'est un petit peu comme toutes les épreuves. Voilà, c'est le grade de handicap est différent pour chaque spécificité. Bien voilà, on suivra tout ça avec très grande attention, parce qu'on sait le cheval, l'équitation en France. Ça, c'est populaire ?
Ah bah oui, c'est la troisième fédération nationale. Et je pense qu'on a, on a aussi des bonnes chances de médailles en CSO, parce qu'il y a Pénélope Leprévost, Kevin Stott qui reviennent, il y a Julien Epaillard qui est hyper en forme en ce moment. Et en concours complet, là aussi, on a une très grosse équipe, avec des gens expérimentés, mais aussi avec... moi, mon préféré, personnellement, c'est Thomas Carlile, Toulousain d'origine, ouais, voilà. Bien. Qui est, qui est en pleine boule avec Darmagnac. Alors, je sais pas. Et maintenant, il habite en Sarthe. Et voilà, lui, il fait partie des 15 sélectionnés. On espère le voir, du coup, fouler les pelouses de Versailles.
Eh bien, on espère tout ça gentiment pour cette équipe de France, pour ces JO qui vont se passer. Donc, rendez-vous le 27 juillet pour le début des épreuves équestres. Merci beaucoup, Anne-Françoise.
Avec plaisir.
Voilà, pour votre œil aiguisé sur, évidemment, le cheval. Puisque le cheval...
C'est trop génial.
C'est trop génial, voilà. Merci beaucoup Anne-Françoise. En préparant cette émission, je me suis dit, tiens, on va écouter France-Galles. Et non, le prochain match de l'équipe de France, c'est France-Italie. Voilà, raté. Bon, on se rattrapera la semaine prochaine.
Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange. Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange. Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano de. De pied, il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a pour sa musique qu'il était patriote. Il serait mort du genre de neuf quelques notes. Et pour quelle raison étrange. Les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Son piano nous pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Thank you.
France Galles, avec il jouait du piano debout à l'instant dans Esprit Sport. Tout de suite, on va retrouver cette nouvelle chronique, ce nouveau passage dans l'émission. Les notifs de l'actu, c'est quoi ? C'est on reçoit tout le temps plein de notifications sur nos téléphones. Certains sont mieux organisés que d'autres pour éviter d'être trop dérangés. Eh bien, pas moi, puisque j'en reçois très souvent de sport. Tout de suite, première notification, le TFC qui serait possiblement vainqueur sur tapis vert jeudi face au Benfica en Europa League. Attention à des jingles. Hop, notification, voilà. Oui, c'est possible, le TFC pourrait potentiellement gagner sur tapis vert. Alors, petite information, c'est parce que la police portugaise mène actuellement des actions pour protester contre les bas salaires et les conditions de travail. Pour l'instant, le match n'est pas reporté, mais tout est au vert pour que le match se passe. Mais il n'est pas impossible qu'il y ait des perturbations. Voilà. Pour l'instant, on n'est sûr de rien. C'est une possibilité. Ça peut ne pas arriver comme ça peut arriver.
Et bêtement, il ne pourrait pas être joué à huis clos ?
Mais non, parce que c'est les policiers qui font des revendications. Donc niveau sécurité, ça passe pas du tout.
Ah oui, mais s'ils ferment le stade, non, enfin,
je sais pas. Il faut quand même une sécurité. Donc pour les joueurs, le transport depuis l'aéroport et compagnie. Okay, donc okay. Voilà. Donc
ils
qu'est-ce
peuvent
qu'on
pas jouer ailleurs en France. Enfin non, bah non, ils peuvent pas.
Bah, le match c'est jeudi. Hein. Ah, oui. C'est, on est là, on est début de semaine, donc le match ça arrive très vite. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on se... Je sais que Gabin, pour en avoir parlé avec lui, ne veut pas d'une victoire 3-0 du TFC sur tapis vert.
Non, parce que si on gagne 3-0 là-bas sur tapis vert, ben, quand on va jouer à domicile, ils vont venir avec plus que de l'envie, donc on risque de prendre un gros score à domicile.
Il n'est pas confiant, Gabin, sur le retour, sur l'arrivée des joueurs portugais au stadium. En tout cas, voilà, ce sera à voir, à suivre. Corentin, 3-0, tapis vert, t'en passes. On accepte.
Bah non, c'est quand même pas l'essence de la compétition. Si le Benfica avait triché, d'accord, mais là c'est vrai que c'est pas quelque chose qui dépend d'eux. Mais c'est vrai que, comme dit Gabin, je pense que ça peut, c'est vraiment un peu la loose française, ça, de gagner 3-0 sans jouer à l'aller, et je vois bien le TEF prendre 4-0 au retour, alors que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, ça serait jamais arrivé. Donc en plus avec la forme du moment, ça peut être vite compliqué.
C'est bien, Corentin, bien vu. Le stade au Benfica, comment il s'appelle?
Stade de la Lousse.
Voilà, c'est bien.
Oh, c'était beau.
C'était bien trouvé. Je vous ai vu quand t'es arrivé. Voilà. À noter, 3000 supporters toulousains sont entendus jeudi soir au Parkage. Donc, voilà, le TF n'a jamais fait déplacer autant de monde hors Coupe de France. Donc, voilà, c'est pour ça
que. Ce serait bien dommage que ce soit annulé.
C'est pour ça qu'aspect sécurité, ça semble compliqué. Attention. Nouvelle notif, la France a-t-elle reçu le pire tirage pour la Ligue des Nations ? Ça a eu lieu jeudi dernier et la France a tiré l'Italie, l'Israël et la Belgique. Concrètement, est-ce que ça pue pour les Bleus ?
Non, pas du tout. Absolument pas.
Même s'il y a l'Italie et la Belgique ?
Bah, c'est-à-dire que l'Italie, en ce moment, ils ont du mal à mettre un pied devant l'autre. Alors après, le sélectionneur qui est en place met quand même un petit peu, essayer de faire un peu jouer, mais c'est l'Italie, depuis l'Euro 2021, c'est compliqué, ils étaient même pas sûrs, ils se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, c'est vraiment dur pour
ça
eux.
Ça devient une tradition italienne, la Coupe du Monde.
Ça devient une tradition italienne, et puis la Belgique, c'est pareil, ils sont, s'il y a Kevin De Bruyne, bon, ça va, mais puis, au pire, nous, on joue pas la gagne, puisqu'on est dans la poule B, enfin, dans le niveau B, donc on est en deuxième division de cette Ligue des Nations, on joue pour remonter en division A, mais par contre, je pense que ça peut être bien pour pouvoir préparer l'équipe aux nouvelles échéances, Coupe du Monde, etc. Voilà, ça peut être intéressant.
Gabin, est-ce qu'on est confiant pour ce groupe B de la Ligue des Nations ?
Oui, moi je suis un peu du même avis que Corentin. Là.
Oui, on voit pas vraiment d'épouvantail dans cette poule, hormis les Bleus qui vont jouer rapidement d'ailleurs dans les matchs amicaux. Attention, dernière notification. Hop, vous avez vu, on en reçoit beaucoup. Dorian Pain, déclaré lauréate de la course 1 en F4 à Abu Dhabi. Et alors là, j'ai Anne-Françoise qui me fait des grands yeux, qui me dit qu'est-ce qui me baragouine, lui. Dorian Pain, elle a 20 ans. Voilà. Elle fait de la course de monoplace, de F4, et elle a été déclarée lauréate. Pourquoi cette notification ? Parce que c'est bon signe. Il n'y a pas énormément de femmes en monoplace. Il y a un championnat qui a été créé, mais pour l'instant ça peine un petit peu à se développer. Il y a quand même encore un écart entre malheureusement entre les femmes et les hommes en F4, mais Dorian Pain est en train d'écraser. Enfin, d'écraser. Elle est en train de gagner des courses dans des championnats mixtes, puisque voilà, il y a des garçons avec elle.
Voilà, du coup, ces courses-là, c'était des courses mixtes. Je me souviens qu'on a eu ce sujet, oui. Qu'on a discuté
Dorian
de ce sujet
c'est
sur la mixité des sports.
Ouais, voilà. Elle a 20 ans et elle a participé. Elle vient d'avoir 20 ans et elle a participé aux 24 heures du Mans. Elle fait partie d'une équipe qui fait beaucoup de courses d'endurance. Donc voilà, petit cocorico pour cette prodige française de voiture. Voilà.
De voitures.
De voitures.
Non, mais c'est chouette, ça fait bouger.
Moi, j'aime les voitures.
Les voitures.
Je sais que Corentin aussi, il aime ça, mais là, il n'a pas envie de rebondir.
Non, mais si, bien sûr, je vous laissais terminer. Je vous laissais terminer, introduire un petit peu cette news. Non, c'est une très bonne nouvelle. Et puis voilà, peut-être que ça va aussi. Enfin, il faut penser à. Même si elle est très jeune, il faut penser aussi aux générations qui vont venir. Peut-être que ça va donner envie à d'autres jeunes filles de se lancer dans les sports mécaniques et montrer voilà, que finalement. Ces compétitions, les sports auto, peut-être que comme le cheval, on aura bientôt des concours qui seront mixtes et ouverts à tous. Et peut-être que, pourquoi pas, avoir des femmes en Formule 1, ça serait intéressant. Donc voilà, on espère, on lui souhaite en tout cas une très belle ascension dans l'échelle du sport auto.
Dorian Pain qui faisait partie de l'académie Ferrari et qui est maintenant parti chez Mercedes. Voilà, là où était un certain Lewis Hamilton. Il y est d'ailleurs jusqu'à l'année prochaine, on en a parlé à la dernière émission. Voilà, c'est tout pour les notifs. À voir si on prolonge ou pas. On verra si la semaine prochaine il y aura d'autres notifications abordées ou bien s'il y aura une petite chronique à suivre. Là aussi, toujours c'est un petit peu du teasing. On vous invite à rester et à nous écouter aussi la semaine prochaine. Tout de suite, il est l'heure de débattre avec cet intitulé. Avec cette victoire au bout du suspense face à l'Écosse, la machine bleue est-elle relancée ? Battez-vous. Je sais que Anne-Françoise m'a envoyé un message. Elle m'a dit, est-ce qu'on peut taper dans le lard ? Parce qu'il y a quand même... On a gagné. Voilà.
Voilà. Alors, faut quand même le dire.
On a gagné.
Okay.
Laissé à la fin pour l'Écosse, on est beaucoup à penser qu'il y était. Heureusement, il n'a pas été validé.
Bah, c'est-à-dire que ça aurait été pour la France, on aurait crié au scandale, comme on a crié au scandale pour... Voilà,
Coraline, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, a dit que voilà, pour les Écossais, c'est terrible, perdre à domicile sur un si petit score, 16-20 pour la France, du coup, à Murrayfield. Est-ce que la machine bleue est relancée ? Anne-Françoise.
Moi, franchement, vu le jeu qu'ils ont produit, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce qu'en fait, on gagne de rien. Enfin, je veux dire, on aurait pu perdre. Voilà. Je pense qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits, bon, qui sont assez discutables. On met des essais sur des éclairs de génie individuels, alors qu'ils sont bien mis en ils sont dans les bonnes conditions pour s'exprimer. Voilà. Je pense à Milière Barré, par exemple, qui est sur
Bien
son,
Barré, oui,
sur son essai, en fait, il est exactement comme il aime être, avec de l'espace, voilà, il fait un très très bel exploit individuel, donc c'est super. Mais je pense que collectivement, c'est pas du tout rassuré quand même. Moi, j'ai vu un tweet ce week-end qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'il est très très vrai. Ça disait, non, mais c'est vraiment de la faute des Écossais, nous, on a tout fait pour perdre. Ou plutôt, on n'a rien fait pour gagner.
C'est vrai que c'était une victoire assez poussive. Hein. On note quand même Aldrit, le capitaine.
Oui.
Voilà, ça aussi, ça.
Oui, ça aussi, c'est-à-dire que bon, oui, voilà, ça sent pas très bon.
Corentin, vous, comment vous l'avez senti cette victoire ? Est-ce que vous la sentez une victoire encourageante ou une victoire inquiétante ? On a eu beaucoup de défaites encourageantes, mais là, on va voir le verre à moitié plein et on va se dire, allez, ils ont gagné, là, c'est fini, on va écraser le Pays de Galles, on va tabasser les Italiens et on va gagner de justesse contre les Anglais.
J'ai tendance à voir le verre à moitié plein et j'espère en tout cas que cette victoire, elle aura déclenché quelque chose parce que les joueurs étaient quand même très contents à la fin du match d'avoir été chercher cette victoire en Écosse après un match qui a été très difficile, mais... J'espère en tout cas qu'on est relancé, mais en tout cas il y a beaucoup de choses à améliorer, que ce soit notamment la touche, où on a été catastrophique, que ce soit contre l'Irlande et contre l'Écosse. Le jeu aérien aussi, on a été en difficulté, à se demander si peut-être, pourquoi pas, comme Jalibert n'est pas forcément flamboyant en défense, est-ce qu'on ferait pas glisser Ramos en 10 et mettre peut-être un arrière encore un peu plus serein que lui. Je sais pas, il y a Brice Dulin qui performe bien dans le jeu aérien. Enfin voilà, peut-être faire jouer d'autres... D'autres joueurs qui pourraient apporter de nouvelles choses, on le disait la semaine dernière, de toute façon le Grand Chelem est perdu et vu comment joue l'Irlande, le tournoi, on va se battre pour la deuxième ou la troisième place, j'espère pas la quatrième ni la cinquième, Mais ça veut dire qu'il faut quand même que cette équipe de France, on lui fasse, on l'utilise aussi peut-être pour explorer d'autres choses. Moi, quand je vois Galtier à la fin du match qui vient nous expliquer que c'est le match parfait ou que c'était prévu,
pas de moquerie, s'il vous plaît.
Pour rester poli, on nous prend pour des jambons quand même. Ah, là, ouais. Faut pas.
Là, c'est jambon beurre, là, c'est la totale. Hein.
Non, bah, c'est-à-dire que, en fait, moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Depuis le début du tournoi, là, on a l'impression qu'ils sont en mode oh là là, il faut absolument pas perdre, oh là là, c'est très très grave. Bah, on sort d'une Coupe du Monde où on avait toutes les cartes en main, on est tombé de très haut. Là, il pourrait y avoir une reconstruction d'une équipe, parce qu'il y a des jeunes aussi qui sont arrivés, il faut pas les oublier. Enfin. Il y a aussi des gens à installer au haut niveau.
D'ailleurs,
En fait, on pourrait profiter de ces matchs-là pour le faire.
Justement, en parlant d'installer, Lucu Jalibert, on persiste, on signe, mais on continue, ou on met peut-être. Quand on pense à Astoy, quand on passe à Le Garec, oui.
Surtout que Astoy et Le Garec ont déjà joué ensemble sur un match. Alors, c'est des matchs un peu d'exhibition, mais c'était sur un match de.
Parce que c'est pas le moment
des Barbarians, et c'est deux joueurs qui étaient flamboyants sur, sur ce match-là. Ça pourrait donner quelque chose de bien.
Faut essayer des choses, faut arrêter de faire du damage control en fait. Enfin...
Moi, quelqu'un que j'adorais qui est rentré, Pozzolo Tuilagi, qui a attrapé un Écossais comme si c'était un jambon justement.
C'est ça.
Il l'a balancé à 2 mètres derrière et c'est tout. C'est incroyable, cette puissance, c'est assez incroyable. Donc c'est quand même assez optimiste. Il y a Cross qui a fait un très joli match.
Ouais, tout à fait.
Ficou qui a été élu homme du match. Voilà, c'est le blanc que j'espérais. Et Aldrid qui dit une de mes plus belles victoires après le match face à l'Écosse. Voilà, sachant que.
Pour Aldrid, on peut le comprendre.
Ils en ont mis 50 face à l'Angleterre. Ils ont gagné en Nouvelle-Zélande en ouverture de Coupe du Monde.
Moi, je comprends pas.
Mais
quoi.
La plus belle victoire, c'est l'Écosse. Bon.
En fait, il faut peut-être le prendre dans le sens plutôt sur lui qui a des origines écossaises. Il était capitaine sur un match à Murrayfield. Peut-être que c'est ça. C'était un match qui était symbolique pour lui. Et c'est ce qui en fait une belle victoire. Au-delà du côté sportif, c'est plutôt le côté symbolique d'être capitaine de ta nation. Dans ton pays d'origine, dans un stade mythique. Mais bon, c'est sûr que
c'est des déclarations
qui surprennent un peu, ça surprend au même titre que la déclaration du week-end dernier où on prend une bonne fessée à la maison face à l'Irlande. Et en fait, le discours des joueurs, c'est oui, on va aller remercier les familles qui sont venues. On attendait peut-être un peu plus de caractère à ce niveau-là, mais après, c'est peut-être ce caractère-là qui nous fera gagner aussi, d'être... proche de la famille, proche des supporters, mais je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent peut-être être repensées, en tout cas remises en question, notamment peut-être aussi les datas à tout prix, parce qu'on sait que Galtier tient à avoir une équipe de France qui, pour être champion du monde, doit avoir 45-50 sélections de moyenne, 30 ans de moyenne d'âge, parce que c'est comme ça que les Sud-Africains ont gagné en 2019 et en 2023. Et c'est peut-être pas ce modèle-là. Pourquoi on n'aurait pas une génération de jeunes avec 25 ans de moyenne d'âge qui a envie de tout bouffer, de tout exploser et qui marcherait. Donc
il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui pourraient essayer pour un peu les aguerrir aussi à ce niveau-là. Enfin, franchement, moi la prise de tête sur tous les ans faut gagner le tournoi. Enfin, à un moment donné, justement, profiter de ces matchs-là pour y aller quoi.
Cette année, on sait que c'est foutu. Maintenant, l'Italie, le Pays de Galles et l'Angleterre, on peut se permettre de changer quelque chose.
Ouais, peut-être on peut jouer quoi.
Et ce jeu de dépossession, on est mauvais au pied, on n'arrive pas. Il y a eu une séquence hallucinante de je tape au pied.
Tout le monde était arrêté là.
Le Finn là, il a pris le ballon, il s'est fait un thé, il s'est dit bon, j'attends. Et hop, il a tapé au pied. Ce jeu de ping-pong là sur possession de terrain, c'est assez incroyable, c'est terrifiant à regarder. Ce jeu de dépossession que nous prône Galtier, est-ce que ça commence pas à être un petit peu plus le moment de faire ça? Est-ce que du coup tout le monde n'a pas compris qu'on joue comme ça et qu'au final il suffit de garder le ballon et puis on se fait écraser quoi?
Après, il y a eu des fois quand même des coups de pied un peu offensifs où il y avait des montées et des choses comme ça. Ça s'est pas si mal passé que ça. Mais c'était quand même pas beaucoup. Alors après, la problématique, c'est que si tu cherches des touches et puis que tu...
Il y a des touches, on les a ratées aussi. Movaka en a raté quelques-unes.
Ce qui est hallucinant, c'est qu'à Toulouse, ces touches... ça passe.
C'est torpille.
Moi, personnellement, c'est mon interrogation sur cette équipe de France. On prend tous ces joueurs, on les met dans leur club.
Ils n'y arrivent pas.
c'est des excellents joueurs. Ils tapent des fois les Irlandais en Coupe d'Europe, etc. On les met ensemble, alors qu'ils ont joué ensemble il y a 3 mois. Hein.
Enfin, Lucu et Jalibert fonctionnent à l'UBB.
Hallucinant.
Ils ont jamais été aussi bons en club que...
Quelle est la différence?
On joue contre nature en équipe de France.
Elle a des lunettes avec gros montants.
Les joueurs jouent pas vraiment leur jeu. Finalement, vous prenez le jeu du Stade Toulousain, qui est un jeu où on porte beaucoup le ballon, on fait tourner. Bordeaux, c'est pareil. Là, on demande aux joueurs de vite se débarrasser, de jouer sur des turnovers. Donc, c'est contre nature par rapport à ce qu'ils font en club, quoi.
Non, mais c'est quand même bien, du coup, que l'entraîneur est pas capable de sentir un peu les conditions qui permettraient à ces joueurs
Galtier,
de s'exprimer.
Fabien Galtier, pardon. Ouais. Christophe, non, pas du tout. Fabien Galtier,
lui,
il y a lui. Dans son monde, quand on entend ses interviews, moi je trouve ça incroyable. Mais
moi je rejoins assez Corentin en fait. On a
Après il y a 66 millions de Français, il y a 30 millions de sélectionneurs quoi. Donc c'est là aussi c'est toujours un peu compliqué, mais peut-être qu'il nous donnera tort, peut-être qu'il nous donnera raison. Donc au final, la machine bleue, elle est un peu grippée et elle commence à se relancer.
Oui.
Merci Corentin.
Ouais, moi j'espère que oui. Après on sent qu'ils partent un peu de loin quand même. Hein. On a l'impression qu'ils sont en D2 en fait et qu'ils essayent de jouer du top 14 quasiment. Enfin...
Est-ce qu'on retrouve pas un petit peu de cette équipe de France sous Brunel à une époque? Oula, il est pile là où il fallait pas.
C'était pas la plus belle celle-ci. Hein.
Non, c'est.
Et puis elle était triste en fait.
Ah là, c'était terrifiant comme période. On a peur. On espère que ça va pas se refaire. Et puis il manque un joueur.
Ah.
Un être vous manque.
Un être vous manque et le monde est dépeuplé.
Oui, après, il en a beaucoup. Il en manque beaucoup.
Ouais,
il y a beaucoup de postes. Mais...
En fait, il en manque beaucoup. Mais la problématique, c'est que là, en plus, ça appuie dans le sens où on n'aimerait pas trop que ça appuie, en fait. Cette espèce de Dupont-mania en disant oui, quand il n'est pas là, tout va mal. Bah là.
Ouais, il est
ça
pas là.
Ça se voit un peu quand même. Enfin, il est pas là, ça va mal.
Après, voilà.
Lien, pas lien.
Il va peut-être manquer Aldrit. Il manque plein de joueurs.
Bah,
on
il
a
manque
là
Damac,
aussi.
Il manque, enfin, il en manque plein en
on
fait.
On a là aussi fait un débat. Donc voilà. À voir quand l'équipe sera complète. Quand on aura les Avengers. Quand on aura la Dream Team.
Après,
on verra ce que ça donne.
On a quand même d'excellents joueurs sur le
vrai,
terrain.
Vrai,
on a d'excellents joueurs sur le terrain.
Un peu déçu de la charnière Lucu Jalibert. On espère qu'ils vont se réveiller, peut-être face à l'Italie,
bah,
si ils sont là.
Moi, je confesse que je regarde pas trop les matchs en dehors du Stade Toulousain. Du coup, je vois très peu Lucu évoluer.
Ils sont très bons hein, en club, hein. Lucu.
Ouais,
c'est...
Non, mais en fait, moi, j'ai une image de Lucu qui est vraiment un joueur très moyen, qui a un peu.
Il est en pleine maturité, comme les chevaux.
Ah, c'est ça.
Il est dans sa période
non,
de
mais,
maturité.
Et en fait, en club, il est excellent. Mais du coup, en équipe de France, il performe pas du tout.
C'est
du
ce
tout.
Que Corentin dit. Peut-être que c'est ce jeu qui diffère entre le club et l'équipe
nationale.
Ouais,
mais à un moment donné, c'est des grands garçons aussi. Ils savent qu'ils gagnent en club. Donc à un moment donné, ils peuvent aussi se prendre en main. Et puis, exactement comme ce qu'ils ont fait contre les Irlandais, de refuser de prendre les 3 points quand ils pensent qu'en prenant une pénale touche, eh ben, on reste dans le terrain des adversaires. Ça nous aurait peut-être évité de quasiment prendre un essai à la fin aussi. Donc en fait, c'est des grands garçons. Ils savent, ils ont de l'expérience aussi. Donc en fait, le capitaine, il peut décider que c'est le terrain qui décide quelque part quoi.
Et le terrain en décidera dans quelques jours, puisque justement, tout de suite, il est l'heure de retrouver le pronostic. Et on va commencer, suspense par Gabin qui fait sa première. Gabin, est-ce que vous êtes prêt?
Oui.
Eh bien, 30 secondes, top départ, pour nous donner votre pronostic sur le match France-Italie. Ça a lieu dimanche 25 février. Qui va gagner et comment?
Moi, pour ce match, je vois une victoire française. Dans un match accroché où les Italiens voudront gagner le match, quoi. Et moi, je vois bien une victoire française sur un score. Un petit score, quoi. Pas un très gros match français, mais qui suffira pour gagner.
Comme au précédent tournoi, une victoire poussive des Bleus. Très bien, c'est noté. Corentin, à vous. Même règle, même match. France-Italie, dimanche 25 février à 16h. Vous avez 30 secondes.
Déjà, il est bon de se rappeler que l'équipe de France à domicile n'a jamais perdu contre l'Italie. On espère que ce ne sera pas une première et que je ne vais pas porter la guignane au bleu en disant ça. Je vois bien les Bleus se relancer, peut-être quelques changements dans la compo. J'espère des nouveaux entrants également, ceux qui ont bien performé face à l'Écosse, ou en tout cas qui ont emporté. Moi, je dirais une victoire 25-10. On se rassure, mais on n'est pas forcément non plus serein pour la suite. Mais on prend les points qu'il y a à prendre.
Un petit peu comme Gabin, au final. On va gagner, mais on n'est pas serein. Ça, c'est bien, ça nous motive un petit peu. Anne-Françoise, à vous.
Ouais, alors moi, comme en général, je suis assez nul au prono, je vais pas faire un prono, je vais faire mon match idéal. Donc mon match idéal, c'est les joueurs qui se prennent en main, les joueurs qui se rebellent, qui mettent un peu de folie là-dedans, qui mettent un peu de jeu et qui mettent plein de points et qui se font plaisir sur le terrain. Et donc du coup, qui nous feront plaisir quand nous, on va les regarder. Ce qui m'évitera du coup de quitter les matchs. Je n'ai pas réussi à finir ni le match contre l'Irlande, ni le match contre l'Écosse.
Eh bien, merci beaucoup, Anne-Françoise. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Soir. Merci Corentin, merci Gabin. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On va parler une heure de sport.